Good Evening Business, l'invité.
19h20 sur BFM Business. Voilà, c'est une des polémiques du moment en France. L'État veut-il vraiment faire main basse sur ce qu'on appelle la cagnotte des retraites complémentaires? On va en parler avec François-Xavier Celleret qui est avec nous par visio. Bonsoir Monsieur Celleret, bonsoir, merci d'être avec nous ce soir sur BFM Business, directeur général de l'Agirc-Arrco, on rappelle principal régime de retraite complémentaire géré par les partenaires sociaux. Il y a effectivement un projet qui a été repoussé à deux reprises, qui verrait en 2024 effectivement l'État transférer le recouvrement des cotisations Agirc-Arrco aux URSSAF. On parle d'une cagnotte de près de 87 milliards d'euros de cotisations tous les ans. Pourquoi vous opposez-vous à cet éventuel transfert qui devrait intervenir en 2024, Monsieur Celleret ?
Bonsoir, monsieur. Mais effectivement, je crois que les partenaires sociaux qui pilotent l'Agirc-Arrco, c'est-à-dire les représentants des entreprises et des salariés, quand le projet a été lancé il y a 3 ans maintenant, c'était en 2019, à l'époque, vous vous en souvenez, vos téléspectateurs s'en souviennent, on parlait d'un projet de réforme systémique des retraites. Il n'y aurait plus qu'une seule caisse de retraite, il n'y aurait plus et le pilote aurait été l'État.
Oui.
Ce projet n'est plus d'actualité et ils sont aujourd'hui en responsabilité. Et vous voyez, il y a demain, enfin plutôt le 2 novembre, les retraites des salariés du privé vont augmenter de 5,12%.
Oui.
Et donc, et c'est pas grâce à la décision des partenaires sociaux. Et comment les partenaires sociaux arrivent à pouvoir piloter l'Agirc-Arrco, c'est qu'ils pilotent à la fois les recettes et les dépenses. Et comme vous l'avez dit dans vos différentes annonces, ce régime n'a pas 1 euro de dette, mais 60 milliards de réserves. Et donc, leur crainte, c'est qu'avec l'arrivée d'un intermédiaire, qui est un intermédiaire issu de la puissance publique, ils ne puissent plus, dans la durée, piloter ce régime et surtout garantir à l'ensemble de vos auditeurs, à l'ensemble de vos téléspectateurs, la juste retraite. Parce qu'il y a à la fois des enjeux politiques, des enjeux financiers, mais aussi des enjeux de calcul de droits individuels. Parce que la caractéristique de l'Agirc-Arrco, c'est tous les mois, on s'assure que ce que vous avez payé, ce que votre entreprise a payé pour vous, eh bien la somme due pour vous garantir le jour où vous partirez en retraite, le juste montant de votre retraite. Donc ce sont aussi des enjeux opérationnels,
mais
industriels, à l'échelle de 55 millions de personnes.
Vous semblez dire que les URSSAF ne seraient pas en mesure de nous prémunir de certains bugs informatiques notamment, mais les URSSAF de leur côté disent « on est prêt, les tests sont prêts, on est prêt à relever le défi personnellement ».
Vous savez, un projet comme celui-là, ce n'est pas qu'un sujet d'un acteur qui s'appelle URSSAF ou l'Agirc-Arrco. Ça suppose que toutes les entreprises de notre pays, c'est-à-dire plus d'1,6 million d'entreprises, que tous les éditeurs de logiciels de paye, que tous les experts comptables soient prêts. Ça, c'est le premier élément. Mais le deuxième élément, et c'est la raison pour laquelle les partenaires sociaux sont mobilisés, c'est de dire aujourd'hui, ils maîtrisent l'ensemble des leviers, les recettes et les dépenses. Et donc, le fait d'avoir un nouvel acteur qui ne pilote pas, puisque l'URSSAF, c'est un établissement public qui dépend de la puissance publique, et bien, qui donc rend des comptes à la puissance publique, ne permet pas pour eux, dans l'exercice du pilotage, hein, c'est comme si moi je vous disais, est-ce que vous accepteriez de me donner la gestion de votre compte bancaire personnel, vous-même, hein, ou vos téléspectateurs? Et si je vous pose la question personnellement, peut-être que la réponse ne sera pas spontanément positive, même si moi je vous garantis qu'il n'y aura pas de bug informatique. Donc vous voyez, c'est aussi le fait de mettre un tiers dans le dispositif afin de s'assurer qu'à la fin, si ça marche, pas le fait que d'un seul acteur, mais c'est tout l'ensemble des acteurs qui partent de la paye, de notre paye à chacun d'entre nous.
Le gouvernement dit aussi que c'est un outil de simplification, c'est-à-dire qu'on va mettre en face des entreprises un interlocuteur unique qui sont les URSSAF pour le versement de l'ensemble des cotisations sociales sur les salaires, charges salariales, patronales et donc complémentaires santé. On nous parle d'outils de simplification. Je ne fais que le relayer là ce qu'est l'argumentaire de l'État et des URSSAF aujourd'hui. Hein. On est d'accord.
Alors, en l'occurrence, le sujet de la complémentaire santé, je ne crois pas que ça soit le projet. Mais l'outil de simplification, tout le monde veut quelque chose de simple. Personne ne veut quelque chose de complexe. Vous, comme moi, comme l'ensemble des téléspectateurs, comme l'ensemble des entreprises. Sauf que la vraie simplification, elle a eu lieu il y a 5 ans, quand on a appelé la DSN, la Déclaration Sociale Nominative. Tout le monde veut quelque chose de simple, mais veut aussi quelque chose qui soit personnalisé, adapté à ses besoins. Et demain, peut-être que un certain nombre de cotisations seront payées sur SAF, mais par exemple, vous avez évoqué vous-même la complémentaire santé. Dans le projet, à ma connaissance, il ne s'agit pas que les cotisations des complémentaires santé, quand elles sont payées à une mutuelle, quand elles sont payées à une compagnie d'assurance, à une institution de prévoyance, soient collectées par les URSSAF. Au cas, ça ne fait pas partie des projets de loi. Donc, cette idée du collecteur unique, c'est vrai dans un champ, mais si on se met du point de vue de l'entreprise, si on se met du point de vue des salariés, le collecteur ne sera pas unique. Vous voyez, donc cette question-là, elle est quelque chose de simple, de complexe, personne ne veut plus de roupiers. Mais à l'inverse, quand vous et moi, on a un interlocuteur, on veut qu'il puisse répondre aux questions de manière extrêmement précise.
Je cite Brigitte Pisa, qui est également une des dirigeantes du régime Agir Carco de la CFDT, qui disait récemment qu'il parlait du casse du siècle. Elle disait c'est le casse du siècle. Et on sent que vous aussi, ça vous brûle les lèvres de dire nous craignons finalement que tout ça ne soit une vaste manœuvre de l'État, justement pour bénéficier, récupérer cette manne. On rappelle encore une fois 87 milliards d'euros de cotisations, plus, je parle sous votre contrôle, 60 milliards de réserves. Que tout ça soit un faux-nez destiné à récupérer cette masse d'argent et à boucher, vulgairement parlant, d'autres trous. Voilà. Est-ce que c'est fondamentalement le raisonnement que vous faites, vous, aujourd'hui?
Si vous voulez, le raisonnement des partenaires sociaux, c'est de se dire, dès lors que vous n'avez plus la maîtrise de vos ressources, et que la maîtrise de vos ressources incombe à un tiers, qui est issu de la puissance publique, il n'y a pas de garantie que demain, même si, avec toute la bonne volonté des acteurs actuellement, que demain, ces ressources-là ne soient pas affectées à un autre usage que celui pour lequel elles ont été collectées. Vous savez, je prends un exemple simple. Vous l'évoquez vous-même. Quand on est client à l'Agir Carco, parce que nous, on parle de client, on cotise pendant 45 ans. 40-45 ans, selon le parcours professionnel de chacun, et on va percevoir une retraite pendant 20, 25, 30 ans. Donc ça suppose que nous, on puisse vous garantir que toutes vos cotisations, non seulement parce qu'on est un régime en répartition, serviront à payer les retraites de vos parents, de vos grands-parents, mais aussi que toutes ces cotisations vous permettent d'avoir le juste droit à la juste retraite. Le jour où vous avez un autre acteur, cet élément-là, il est pour le moins non garanti, surtout dans la durée. Hein, les partenaires sociaux, ils ont l'expérience de l'assurance chômage, où il y a 10 ans, le recouvrement est parti aux URSSAF, et 10 ans après, ils ont le sentiment que l'assurance chômage, aujourd'hui, n'est plus pilotée par les partenaires sociaux, n'est plus pilotée par les représentants des entreprises et des salariés, l'expression de la démocratie sociale. Donc, ouais. Ils ont aussi, c'est Charles Péguy, il faut voir ce qu'on voit. Ils ont aussi l'exemple de l'UNEDIC, ils ont l'exemple aussi de, certains disent, mais la réforme des retraites, qui par ailleurs un autre sujet d'actualité, elle servira à financer d'autres priorités de politique publique. Oui. C'est tout à fait respectable de ceux qui les expriment. Mais eux se disent, mais finalement, si nos recettes sont collectées par l'URSSAF, il n'y a pas de garantie que dans la durée, les cotisations de tous les salariés français, les 25 millions qui chaque année cotisent, les cotisations de toutes les entreprises aillent bien au calcul et au versement des retraites. Et aujourd'hui.
En quelques secondes, monsieur Selleret, le gouvernement l'a décidé, ça devait entrer en vigueur en 2022, puis 2023, ce sera finalement 2024. Est-ce que fondamentalement les partenaires sociaux pourront s'opposer à ce transfert? C'est la dernière question que je voulais vous poser.
Le débat aujourd'hui, c'est un débat qui se joue aussi avec la représentation nationale. Parce que vous l'avez évoqué, c'est pas le gouvernement qui le décide, c'est la loi. Et la loi, elle est votée par le Parlement, oui. C'est-à-dire par l'Assemblée. Et par les sénateurs. Il y a eu un vote à l'Assemblée nationale qui a été obtenu par le 49-3. Il faut se rappeler que les députés en commission des affaires sociales avaient voté l'abandon de la mesure. Aujourd'hui, on arrive au Sénat. Et donc, un certain nombre de sénateurs, puis je crois qu'il y a qui se sont aussi exprimés hier dans le journal du dimanche, ont dit que pour eux, le simple report n'était pas suffisant. Donc c'est un débat qui est pas qu'un débat technique, qui n'est pas qu'un débat entre le gouvernement et les partenaires sociaux, c'est aussi un débat qui concerne les représentants du peuple, que sont les parlementaires, ils ont aussi leur mot à dire. Et derrière, ce qui se joue aussi, c'est est-ce que des corps intermédiaires peuvent porter une part du bien commun du pays? Est-ce que l'État seul a le monopole de l'intérêt général? Ou est-ce que des corps intermédiaires, les partenaires sociaux, peuvent porter comme en Allemagne, comme à l'étranger, comme en Italie, une part du bien commun du pays? Parce que je vous entends beaucoup parler de cours de bourse. Les 60 milliards de réserves, vous savez à quoi elles sont utiles? Elles sont investies dans les entreprises françaises. Oui. Elles sont investies dans les actions et dans les obligations. Donc elles sont aussi utiles à la souveraineté de notre pays et à accompagner les entreprises françaises dans l'évolution de leur modèle industriel, dans la décarbonation, dans une industrie plus propre.
C'est un vrai sujet de société, on l'a bien compris, on suivra évidemment l'avancée de ce dossier. Pour l'instant, l'échéance, elle est fixée à 2024. Merci beaucoup, monsieur Selleret, François-Xavier Selleret. Merci beaucoup d'avoir été avec nous quelques minutes ce soir, directeur général de l'Agir Carco avec nous sur BFM Business. 19h29, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous avez le petit QR code si vous nous regardez à la télévision pour retrouver toutes nos interviews et tous nos replays. Dans un instant, Thomas Asportas reçoit Franck Mattel, le porte-parole de Jouet Club. On se retrouve demain 18h pour de nouvelles aventures. Très bonne soirée, à demain.